Émile Gaboriau, Les gens de bureau. Préface. Il est toujours bon de consulter les hommes spéciaux. Aussi, avant de livrer ce volume à mon imprimeur, j'ai cru devoir soumettre le manuscrit à un de mes amis, sous-chef dans une de nos administrations publiques. 8 jours après, il me retournait mon livre avec le billet suivant. « Je ne sais en vérité, mon cher, où vous avez puisé vos renseignements. Vos personnages n'ont pas la moindre vraisemblance. Ils n'existent pas. Que vous connaissez peu, les employés, ce sont tous, sans exception, des hommes de mérite, intelligents, laborieux, actifs, fanatiques de leurs devoirs. Savez-vous qu'on n'ouvre pas les portes avant 10 heures pour les empêcher d'arriver trop tôt ? Savez-vous que le soir, il faut leur faire violence pour les mettre dehors sur le coup de 4 heures ? J'en connais qui ont refusé à la fin du mois de toucher leurs appointements parce qu'ils ne croyaient pas les avoir assez bien gagnés. Et le mécanisme administratif, mais quelle singulière idée vous vous en faites ! Y a-t-il exemple d'une seule affaire qui est traînée en longueur dans n'importe quel ministère ? Et quelle politesse dans tout le personnel, quelle urbanité parfaite, quel savoir-vivre ! Demandez au public. Quant au favoritisme, oh, chacun sait qu'il n'existe plus depuis les immortels principes de 89. Donc, puisque vous voulez un conseil, croyez-moi, brûlez ces pages et venez me demander ma collaboration. À nous deux, nous ferons quelque chose de bien. Ce conseil, si désintéressé, m'a touché l'âme. Mais je me suis souvenu que M. Josse est toujours orfèvre. Voilà pourquoi je publie ce volume. Romain Caldas, qui n'avait point eu de boule blanche à ses examens de l'école de droit, découvrit un matin qu'il devait être admirablement propre à toutes les administrations. En conséquence, il prit une grande feuille de papier et de sa plus belle écriture, qui n'était pas belle, il adressa une demande d'emploi à son Excellence Monsieur le ministre de l'Équilibre national. Un vieux monsieur, qui ne connaissait guère, y mit une apostille dans laquelle il déclarait que les talents du sous-signé Caldas devaient être utilisés sans retard au profit de l'État. En fait d'apostille, il n'y a que la première qui coûte. Romain eut bientôt la satisfaction de voir tout alentour de sa pétition 20 signatures de personnes qu'il ne connaissait pas du tout. Sa demande envoyée, Caldas se mit à piocher consciencieusement les matières de son examen. L'administration de l'équilibre, en effet, outre qu'elle exige des candidats aux emplois dont elle dispose le diplôme de bachelier, les astreint encore à passer un examen spécial. Peut-être l'administration s'est-elle aperçue que tous les bacheliers ne savent pas l'orthographe. D'autres mobiles encore l'ont guidée lorsqu'elle a inauguré le système des épreuves. D'abord un vif désir de ne pas rester au-dessous de la civilisation chinoise, qui donne au concours le tablier du cuisinier aussi bien que le bouton de jaspe du général. Ensuite, l'intention bien arrêtée de recruter désormais son personnel dans un choix de sujets en ligne. Enfin, la généreuse pensée de déconcerter à tout jamais le népotisme et de substituer le règne du mérite au régime de la faveur. Pour cette dernière raison, sans doute, on est facilement admis à subir l'examen pourvu que l'on soit chaudement appuyé par 3 ou 4 grands personnages. Caldas avait déjà légèrement préparé les 3 premiers numéros du programme, qui comprend 47 numéros, lorsqu'il reçut l'avis de se rendre au ministère pour y subir les épreuves écrites et orales. Il s'y rendit fort inquiet. Les matières sur lesquelles il fallait répondre sont nombreuses et variées. On demande au candidat une page d'écriture, un problème de trigonométrie, une dictée sur les difficultés les plus ardues de la langue française, une dissertation sur une question de statistique, et la géographie postale de la France. C'est dans la salle des archives que l'examen a lieu. Lorsque Caldas y pénétra, 150 à 200 concurrents l'y avaient déjà devancé. Il en vint encore près du double après lui. Tout ce monde s'asseyait en silence, et des garçons de bureau donnaient à chacun une plume, une écritoire et un cahier de papier blanc. Modestement placé près de la porte, Caldas considérait cette singulière assemblée. Il était venu des candidats de toutes les paroisses. Il y en avait de très jeunes qui n'avaient pas encore de barbe et de très vieux qui n'avaient plus de cheveux. Des gens d'une mise soignée et des pauvres diables presque en haillons. À un moment, le silence fut troublé. Les élèves de la pension Labadas, qui prépara tous les ministères, 30 ans de succès, on traite à forfait, venaient de faire leur entrée. Ces jeunes élèves portaient l'uniforme des lycées et empestaient la pipe et l'absinthe. L'un d'eux vint s'asseoir à la gauche de Caldas. Déjà, il avait à sa droite un vieillard sexagénaire dont les yeux s'abritaient derrière des lunettes vertes. « Et tous ces gens-là, pensait Caldas, ont pourtant un protecteur, ils ont une signature illustre. Mais comment, mais par quel ressort, par quel moyen ? Quelles ont été leurs influences ? Sont-ils dans la manche d'une jolie femme, d'une chambrière, d'un perruquier ou d'un confesseur ? Ce serait en vérité une curieuse statistique. 10 heures sonnèrent, on ferma les portes. Un monsieur, très décoré, qui occupait au fond de la salle un fauteuil placé sur une estrade, semblait présider l'assemblée. Ce monsieur se leva et prononça à peu près ce petit discours. « Je ne vous cacherai pas, jeune candidat, les horribles difficultés de cet examen. Vous ne répondrez à répondre qu'à des questions d'une extrême simplicité. La plus rigoureuse sévérité présidera à la correction des compositions. Les examinateurs seront d'ailleurs aussi indulgents que possible. » Rendons tous grâce à son Excellence, Monsieur le Ministre. L'examen commença, il y eut une question qui embarrassa bien Caldas. Dire l'influence de la statistique sur la durée moyenne de la vie des hommes depuis 10 ans. Il s'en tira pourtant en s'inspirant fort à propos d'un passage humanitaire de la case de l'oncle Tom. Du reste, Romain peut travailler avec tranquillité. Il ne fut dérangé que tous les quarts d'heure par son voisin, le lycéen, qui lui offrait des prises de tabac dans sa queue de rat, et de temps à autre par le sexagénaire qui lui demandait des conseils sur les participes. 3 messieurs qui copièrent par-dessus son épaule ne le gênèrent aucunement. En rentrant chez lui, Caldas se disait: cet examen est une excellente chose pour les candidats. Au numéro de classement qu'obtient leur mérite, ils peuvent mesurer au juste l'influence de leur protecteur. Les hautes influences qu'avait fait jour Caldas lui garantissaient sa réception dans un rang honorable. Aussi n'essaya-t-il pas d'entreprendre quoi que ce soit, et son tailleur étant venu lui présenter une petite facture, il lui promit de le payer le jour où il toucherait des appointements. Et il attendit. Il attendit 8 jours. 1 mois. 6 mois. Après quoi, il prit son chapeau et se rendit au ministère afin d'avoir des nouvelles de son examen. « Vous êtes reçu, » lui dit un employé très complaisant auquel on l'adressa. Et sans l'écriture, qui vous induit beaucoup, vous étiez reçu le premier hors ligne. Mais vous écrivez si mal que vous vous êtes trouvé rejeté à la 83e place. Et quand aurai-je un emploi ? Demanda Caldas. Mais à votre tour, vous avez le numéro 9187. Ciel ! S'écria Romain épouvanté. Mais j'aurai 100 ans quand mon tour viendra. Pardon, dit l'employé, depuis l'examen, il y a eu 5 nominations. Oh mince, salua poliment, et se retira fort édifié. Renonçant à dîner du budget, Caldas ne songea plus qu'à déjeuner de la littérature. Dès le lendemain, il envoyait au Bilboquet, journal de banque et de littérature mêlée, un article de haute fantaisie qui fit le succès du numéro et lui fut payé 1 franc 35 centimes. Attaché à poste fixe à cet organe sérieux, il ne tarda pas à voir se développer devant lui les resplendissants horizons de la fortune et de la gloire. Un quart de vaudeville reçu au théâtre de Grenelle mit le sceau à sa réputation. De ce jour, il vécut de sa plume, indépendant et fier. Il y avait 19 mois que Romain mourait de faim, lorsqu'un soir où, par hasard, il rentrait chez lui, sa portière lui remit un pli estampé d'un timbre officiel. Il rompit l'enveloppe d'une main fiévreuse, croyant y trouver des propositions de collaboration à l'un des officiels. Mais la lettre n'était pas de M. A. Wittersheim, ce n'était qu'un imprimé. Il lut: Le chef du personnel du ministère de l'Équilibre national a l'honneur d'informer M. Romain Caldas que par décision de son Excellence en date du 18 janvier 1869, il a été appelé à remplir les fonctions d'employé surnuméraire dans les bureaux de son administration. Signé Le Campion. Je la trouve mauvaise, dit Caldas, qui fréquentait depuis quelque temps un assez vilain monde. Sur cette réflexion, il souffla sa bougie et s'endormit en pensant aux cheveux blonds de Mademoiselle Célestine, l'ingénue de Grenelle, qui les a rouges. Tac, 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 tac! Qui est là? Dit Caldas, furieux d'être réveillé en sursaut. C'est moi, Klugelstein, fit un accent suave des plus prononcés. Mordu sau, toi, murmura Calders, et il ouvrit. Il était joliment en colère, le père Klugelstein, ce matin-là. Il voulait de l'argent. Il attendait son argent depuis 19 mois. Eh, voilà 19 mois aussi que j'attends ma nomination, s'écria Calders. Et je viens seulement de la recevoir. Tenez, la voici. Mais elle arrive trop tard, quand je n'ai plus d'habits. Je vais allumer ma pipe avec ce chiffon. Klugelstern retint la main de l'insensé. À ce mot de nomination, son cœur de tailleur avait battu plus fort. Il avait compris que de ce jour, Caltas devenait un débiteur sérieux. Sa créance allait avoir une base. L'employé présente une surface et l'on peut mettre opposition à ses appointements. Sans mot dire, grave, contenu, M. Klugelstern tira de sa poche son mètre et son morceau de craie et prit mesure à Caldas, qu'il trouva sensiblement maigri. Mais que faites-vous, mon cher ami? Dit Caldas, inquiet. Chef, vous faire une par-dessus en paletot. Une bande à l'or et une gilet, vous serez tout ça demain, de pain patin, de poudre. Et il sortit. Caldas, qui avait des sentiments délicats, comprit qu'il était engagé d'honneur à prendre le grattoir dans la grande armée de la paperasse. C'est ainsi qu'un tailleur allemand détermina la vocation d'un administrateur français. Il était beau, il était frais, il était distingué. Ah, M. Kugelstein avait bien fait les choses, mais Caldas l'avait bien secondé. Il avait des bottines vernies, avancées sur son compte de rédaction par le car rédacteur en chef de Bilboquet. Il avait un chapeau de soie presque tout neuf, résultat intelligent du libre-échange. Toute sa vieille défroque y avait passé. Même il avait des gants violets tendres, mais ces gants lui coûtaient cher. Pour eux, il avait vendu à un porcher du Gros Caillou ses droits d'auteur sur son quart de vaudeville. Ô France, reine du monde civilisé, salue à son auréole un de tes maîtres futurs. Monsieur, dit-il en s'inclinant devant un homme en livrée marron clair, j'ai reçu la lettre que voici. L'homme en livrée lisait au coin du poêle un article de M. Dréhol. À cette voix qui troublait ses délassements intellectuels, il releva la tête. Son regard, sous ses lunettes, remonta rapidement jusqu'à la boutonnière supérieure du beau par-dessus de M. Krugelstern, et comme il n'y vit pas le plus petit bout de ruban, sans se donner la peine de dévisager son interlocuteur, il se replongea dans sa lecture avec un flegme imperturbable. « Monsieur, recommença Caldas, là-bas, au fond de la galerie, dit l'homme avec insouciance. Au fond de la galerie, Caldas trouva deux autres personnages, toujours en marron clair, qui prenaient leur café. Jugeant l'occurrence favorable pour glisser sa requête, le nouveau tendit à l'un de ces messieurs sa lettre tout ouverte. Le moka était réussi, le monsieur de bonne humeur. Il invita Caldas à s'asseoir sur une banquette et, posant méthodiquement la lettre d'avis sous un presse-papier, continua à vaguer sans façon à ses occupations gastronomiques. Au bout de trois petits quarts d'heure, comme Romain se demandait s'il ne ferait pas mieux d'aller rendre à Krugelstern les habits qu'il lui avait confiés pour faire fortune, le garçon de bureau, qui s'était montré si bienveillant pour lui, reprit en hochant la tête « Oh, monsieur le chef du personnel ne reçoit jamais avant 2 heures. »« Diable !» dit Caldas, « il n'est pas encore midi. »« Oh, vous pouvez rester, vous ne nous gênez pas. » On étouffait dans cette galerie, mais il gelait dehors. Caldas resta. Cette couple d'heures ne lui fut pas d'ailleurs inutile à son apprentissage administratif. Il avait eu jusqu'alors des idées tout à fait anglaises sur la valeur du temps. L'oisiveté si occupée de ses fonctionnaires marron clair fut une révélation pour lui. Et concluant de leur fainéantise individuelle à la fainéantise universelle de la gente bureaucratique, il caressa le doux espoir de mitiger par le commerce des muses, pendant les heures réglementaires, l'austère labeur de l'employé. Un coup de sonnette retentit. Le garçon du bureau, qui s'était endormi pendant que Caldas rêvait, se dressa comme mu par un ressort. « Monsieur le chef du personnel est visible, » dit-il. Et rendant au nouveau sa lettre d'introduction, que celui-ci fourra machinalement dans une de ses poches, il poussa une portière capitonnée en maroquin clair et l'introduisit dans une vaste pièce éclairée par 2 fenêtres et coupée vers le milieu par un paravent de couleur claire. Caldas, qui avait l'instinct de la stratégie, eut l'heureuse inspiration de tourner ce bastion et derrière un vaste bureau, il se trouva face à face avec monsieur le chef du personnel. Monsieur Edme Le Campion, chef du personnel au ministère de l'Équilibre, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, est un homme de taille moyenne, au front chauve, à l'œil vacillant. Son âge est un mystère que nul n'a pu sonder. Il n'a pas d'âge. Napoléon les connaissait, disait-on par leur nom, tous les grognards de sa vieille garde. Il sait, lui, la biographie de tous les officiers, caporaux et soldats de son corps d'armée administratif. Il n'ignore pas non plus la position intéressante de Balançard, le contrôleur de l'équilibre de l'Oudéac, chargé de 9 enfants et d'une mère aveugle que les habitudes vicieuses de Fadard, dit Liche à l'œil, jeune surnuméraire parisien, qui se galvaude dans tous les caboulots au platin. Bref, le cerveau de M. Le Campion est un véritable bureau à compartiments divisé en une infinité de casiers administratifs. Dans les lobes de ce cerveau, chaque employé a son dossier avec pièces à l'appui. Le tout fermé à secret. Le secret. Mais c'est la condition même de l'existence du chef du personnel. Aussi fait-il de la discrétion à outrance. On l'a quelquefois entendu parler et jamais répondre. Il fuit les mots précis. Oui et non sont rayés de son vocabulaire. Autant vaudrait interroger la Sibylle de Cume. Ce n'est qu'avec les précautions les plus humiliantes pour son interlocuteur qu'il ouvrira en sa présence le tiroir où il sert ses plumes et ses crayons. Il tremble sans doute de laisser s'évaporer le mystère de l'alchimie bureaucratique. Cet homme impénétrable est le grand ressort du ministère, un ressort d'acier. C'est sur sa présentation que se font toutes les nominations et toutes les promotions. Il est le dispensateur de l'avancement, dispensateur avare. À lui s'adressent tous les vœux, à lui toutes les prières. Il est, de la part du peuple, employé l'objet d'un culte analogue à celui que le Lanzarone napolitain professe pour son grand Saint-Janvier. Le fanatisme y touche de près à l'insulte, l'adoration à l'outrage. Le miracle de l'avancement ou de la gratification a-t-il eu lieu? Dieu ne fait pas fleurir assez de roses pour le Saint-Janvier de l'équilibre. Mais le bienheureux du personnel a-t-il fait la sourde oreille? Oh, ce n'est plus du rez-de-chaussée, au comble de la maison, qu'un formidable concert d'invectives et d'imprécations. Et impassible, il ne sait rien de cet orage. Lorsque, du même pas méthodique, son parapluie sous le bras, drapé dans son nuage de mystère, il traverse les corridors, la crainte et l'espoir ferment toutes les bouches et découvrent toutes les têtes. La renommée, qui grossit tout, exagère certainement l'omnipotence du chef du personnel et les employés de province qui, chaque année, font 200 lieues pour tenir le bougeoir à son petit lever, n'aurait peut-être pas tort de faire cette économie de bout de chandelle. Non, le campion n'est pas tout-puissant, non. Le campion ne fait pas tous les jours ce qu'il veut. Il est juste, mais il n'est pas le maître. Il propose le plus méritant et le plus protégé et nommé. Il est juste et il fait des injustices. Mais chacune de ces injustices est comme une épine cruelle qui hérisse son oreiller et trouble la nuit les rêves de sa conscience. Quelle pensée agitait l'homme intérieur dans Caldas depuis tantôt 3 minutes qu'il se tenait au port d'armes, le chapeau à la main, le cœur palpitant sous son gilet, étoffe anglaise. Il m'en coûte peu de l'avouer. Caldas ne pensait à rien. La majesté silencieuse de cette réception avait subitement cristallisé les idées du nouveau. Le chef du personnel voulut bien enfin s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un là. Par habitude, il cacha précipitamment une feuille de papier blanc et son grattoir, souleva légèrement ses lunettes et... peut-être allait-il parler, quand la peur du ridicule délayant tout à coup la langue de Caldas. « Monsieur, dit-il, vous m'avez fait l'honneur de m'appeler. » Monsieur le campion, qui ne s'est jamais démenti, ne répondit ni oui ni non. Caldas continua. « Vous avez bien voulu me convoquer par une lettre. » Il cherchait dans toutes ses poches. Monsieur le campion avança la main. Caldas cherchait toujours avec rage, avec frénésie, sans rien trouver. Il ne connaissait pas la topographie de son vêtement neuf. Depuis avant-hier, on portait les poches de côté sur les hanches, et Kugelstein ne l'avait pas initié à ce détail. La main de monsieur le campion, toujours tendue vers lui, avait des frémissements d'impatience. Il le voyait clairement, et l'horreur de cette situation paralysait ses moyens. Il se reprenait à fouiller dans une poche déjà explorée 5 fois. « Mais canaille de tailleur, pensait-il, idiot allemand, me pousser dans un habit dont je ne connais pas les dépendances. Oh, de quoi ai-je l'air ? d'avoir loué une friche chez le fripier. Enfin, abandonnant toute vergogne, il posa son chapeau à terre et se palpant par devant, par derrière, de droite et de gauche, dans un suprême effort, il réussit à trouver la lettre fatale qu'il glissa respectueusement dans la main toujours tendue de monsieur le chef du personnel. « Vous êtes monsieur Romain Caldas ?» demanda monsieur le Campion en jetant les yeux sur cette lettre qui portait sa signature. « Oui, monsieur. » Monsieur le chef du personnel toisa rapidement le nouveau. Il lui prenait sa mesure administrative. Du reste, pas un pli sur sa physionomie qui put indiquer s'il était ou non satisfait de son examen. Il reprit avec solennité. « Vous voulez suivre, monsieur, la carrière de l'administration. C'est une pénible et laborieuse carrière, féconde en déceptions, et que vous connaissez sans doute pas encore, mais vous avez fait votre droit, je crois. » « Je suis licencié, dit Caldas. En outre, je crois pouvoir me rendre utile dans l'administration. J'ai l'habitude de rédiger, j'ai publié quelques ouvrages. » « Ah ah !» fit sur deux tons différents monsieur le chef du personnel. « Vous vous occupez de littérature !» Et positivement, cette fois, sa figure exprima quelque chose. Ce n'était pas de la satisfaction. Le nouveau s'aperçut qu'il faisait fausse route. « De littérature, dit-il d'un air désintéressé, pas précisément. Quelques travaux sérieux, d'économie politique, de statistique. » Monsieur le Campion, reculant subitement son fauteuil, se leva et s'adressant à la cheminée. « Notre administration, dit-il en pesant ses marolles, a l'honneur de compter dans son sein plusieurs littérateurs français. » Il fit une pause. Caldas se reprenait à espérer. « Ce sont tous, ajouta le chef du personnel, d'exécrables employés. »« Oh, dit le nouveau, je ne suivrai pas leurs traces. Entrer dans l'administration, je ne veux plus m'occuper que d'elle. » Le lâche reniait ses dieux. « Vous devez cela, et plus encore, reprit l'auguste fonctionnaire, à l'éminent protecteur qui vous a si vivement recommandé à son excellence. » C'est à lui que vous avez dû devoir votre demande si rapidement accueillie, et c'est par conséquent à lui aussi que vous devez avoir d'être reçu à votre examen. » Romain se demandait en lui-même quel était, parmi les 20 inconnus qui avaient apostillé sa pétition, le protecteur assez puissant pour la faire aboutir en moins de 2 ans. Il se trouva que c'était un élève en pharmacie qui venait d'être nommé rédacteur en chef d'une grande revue. Monsieur le Campion tira un cordon de sonnette suspendu juste au-dessus de son bureau. L'homme marron clair apparut. « Conduisez, monsieur, dit le chef du personnel, chez monsieur Maréchal, votre chef de division, ajouta-t-il en s'adressant au nouveau. Et comme l'audience était finie, il tourna le dos à Caldas avec cette urbanité parfaite que lui donne l'habitude de recevoir 100 visites par jour. Romain suivit le garçon de bureau. Ils longèrent un grand corridor sombre, tournèrent à droite, descendirent 12 marches, traversèrent 2 vestibules, une galerie, remontèrent un étage et demi, s'engagèrent de nouveau dans un corridor plus sombre que le premier, à la suite duquel se trouvait une grande pièce où 2 messieurs en habit noir causait à un bureau. Caldas s'apprêtait à les saluer quand il aperçut à leur cou certaines chaînes d'acier en sautoir. Ces messieurs étaient 2 huissiers de son excellence. « Peste, il fait beau ici, se dit-il, de remuer 3 fois la main avant de la porter à son chapeau. L'habit ne fait pas le chef. » Sur cet aphorisme trouvé, il perdit son guide. Le garçon de monsieur le Campion avait brusquement tourné à gauche. Caldas, pris à droite, attend le pas pour rejoindre son pilote. Il marcha droit devant lui, enfila le corridor B, descendit l'escalier étroit, gagna l'aile nord, et comme il n'avait pas eu la précaution, en passant le matin dans le Luxembourg, de ramasser des cailloux, à l'instar du petit Poucet, il se trouva complètement désorienté dans les parages du corridor L. Un monsieur passa tête nue avec des paperasses sous le bras. Romain l'aperçut avec plus de joie que Colomb les premiers oiseaux qui lui annonçaient la terre, et c'est avec l'anxiété du naufragé qu'il le pria de lui indiquer le cabinet de M. Maréchal. « Attendez, lui dit le monsieur, nous sommes ici dans le corridor L. Tout au fond à gauche, vous prenez l'escalier 5, vous le descendez jusqu'au bas, vous traversez la cour de la fontaine, le portique, la cour des statues, et puis... Mais au fait, non, c'est inutile, vous ne vous y retrouverez jamais. Au moins, monsieur, dit Caldas, je vous en prie, enseignez-moi comment sortir d'ici. Ben, toujours devant vous, et ensuite toujours à gauche, dit le monsieur en s'éloignant. Bien obligé, lui cria Caldas, et il s'assit sur un coffre à bois. Je ne m'étonne plus, pensa-t-il, que la moitié des affaires reste en chemin, il y a trop de détours dans ce sérail. Ah, vous voilà, grommela derrière lui une voix de mauvaise humeur, mais par où diable êtes-vous passé? Caldas reconnut le profil de son cornac. Vous me cherchiez? Demanda-t-il. Moi, oh, pas du tout, répondit le garçon. Mais puisque vous voilà, suivez-moi, et tâchez de ne plus me perdre. Caldas avait presque envie de prendre le pan de l'habit marron clair, comme les enfants prennent le pan du tablier de leur bonne. Mais cette précaution fut inutile, et il arriva sans encombre au cabinet du chef de division. « Monsieur Robin Caldas, dit Monsieur Maréchal en se levant, vous nous étiez annoncé, monsieur, et vous êtes le bienvenu. » Charmé de cette façon ouverte et cordiale d'accueillir son monde, Romain se sentit tout de suite pris d'une grande sympathie pour son chef de division. Et vraiment, Monsieur Maréchal est l'homme le plus aimable du ministère. Il a le don si rare de parler aux petits sans les écraser. C'est le vrai signe de la force. Romain Caldas, continua M. Maréchal après avoir fait asseoir son subordonné, mais j'ai vu ce nom-là quelque part. Vous écrivez dans les journaux? Non, bis in idem, pensa le nouveau, qui disait quelquefois les feuilletons de Jeannin. Et il répondit avec une imprudence qui promettait. Oh non, je n'ai jamais fait imprimer une ligne, monsieur. « Oh, tant pis, dit le chef de division. Nous avons ici quelques gens de lettres, ce sont d'excellents garçons, je les aime beaucoup. » « Encore une école, se dit Romain. Mais drôle de boutique, on ne sait plus sur quel pied danser. » Et comme il avait soif de faire son chemin, il se promit d'avoir toujours quelques cocardes de rechange dans sa poche. Il reprit tout haut. « Bien, me voici maintenant, monsieur, tout à votre disposition, et je puis aujourd'hui même, si vous voulez m'indiquer ma besogne. »« Oh, oh !» fit monsieur Maréchal en riant avec bonhomie. « Le feu sacré du premier jour, je connais ça, il se refroidira. » Caldas mit la main sur son cœur, comme pour prendre le ciel à témoin de la sincérité de son intention. Le chef de division continua. « Écoutez, mon cher monsieur, on ne quitte pas ainsi ses occupations, car je ne vous fais pas l'injure de supposer que vous n'en eussiez pas, sans avoir quelques dispositions à prendre, quelques transitions d'aménager. Je vous accorde 8 jours de répit. Le service n'en souffrira pas. Rien ne presse en ce moment, et d'ici là, je trouverai quelque occupation intelligente à la mesure de vos capacités. » « C'est à vous que j'aurai l'honneur de me représenter ?» demanda Romain. « Oh, inutile !» répondit Monsieur le Maréchal. « Vous irez tout droit au bureau du sommier. J'aviserai de votre arrivée votre futur chef, Monsieur Ganivet, un homme charmant avec qui nous n'aurons que des rapports agréables. Sans adieu, monsieur, et à huitaine !» Romain sortit en se confondant en remerciements, convaincu qu'entre son chef de division et lui, c'en était désormais à la vie, à la mort. Caldas n'avait pas de transitions aménagées. On quitte la Bohême comme une auberge mal famée, quand et comme on peut, et on part sans dire adieu à personne. Les 8 jours de répit que lui accordait M. Maréchal furent donc pour lui comme un congé anticipé. Il en profita pour visiter quelques amis de sa famille, de la race de ses correspondants amateurs auxquels les gens de province recommandent instamment leur fils à surveiller, comme si à Paris on avait le temps de se mêler des affaires des autres. Du jour où Romain s'était mis à écrire dans les journaux, il avait cessé de voir ces excellents bourgeois, sachant bien qu'il devait le considérer comme un homme à la mer. En entrant dans l'administration, il revenait sur l'eau et il s'empressait d'aller leur faire part de son sauvetage. Peut-être l'idée que quelqu'un d'entre eux écrirait à sa famille n'était-elle pas étrangère à sa politesse. Partout, il fut bien reçu, et M. Blandureau, riche négociant qui professe pour la littérature l'estime qu'elle mérite, le retint à dîner. « Vous avez pris un sage parti, jeune homme, » lui dit ce commerçant à cheval sur ses principes, « en quittant un métier qui n'en est pas un. En embrassant la carrière administrative, vous vous attachez à la société, vous devenez quelque chose. »« Pardon, » interrompit Romain, « mais dans la littérature, j'aurais pu devenir quelqu'un. » »« Et après, » continua M. Blandureau, « songez donc qu'aujourd'hui, vous avez une position dans le monde. Étonnez-moi qui vous parle. J'aimerais mieux donner ma fille en mariage à un sous-chef de ministère qu'à n'importe quel académicien. Ce sont les premiers de votre état, et ils gagnent 1 200 francs par an. Et puis, ils sont si vieux, » dit Caldas. M. Blandureau aurait sans doute ajouté des choses bien plus fortes encore si Romain ne s'était esquivé pour courir au théâtre. Ce soir-là, il y avait première représentation aux variétés. Toute la presse, grande et petite, était dans la salle. C'était la seconde pièce d'un débutant dont on attendait monts et merveilles. À 11h15, le critique Greluchet fit son apparition au fait du théâtre. Il promena son œil flamboyant autour de la salle, cherchant un visage ami. N'en trouvant pas, il appela le garçon par son petit nom et se fit servir une chope. Le critique Greluchet, qu'on avait outrageusement refusé au contrôle, était allé étudier son compte-rendu au casino Cadet. Parti furieux, il revenait presque gai, ayant recueilli 2 mots méchants sur la pièce nouvelle à encadrer dans son feuilleton. Bohème incurable, depuis 8 jours, Greluchet avait vu la fin de sa dernière pièce de 100 sous, ce qui l'empêchait pas d'entrer dans ce café, se fiant, pour payer sa consommation, à la Providence qui déjà tant de fois a bien voulu acquitter ses notes. Pour tuer le temps, il prit une feuille de théâtre et se mit à étudier la distribution de la pièce. Déjà, sa chope était à moitié vide, lorsque la porte du café s'entrebâilla discrètement et une tête barbue apparut qui interrogeait l'horizon des consommateurs. Greluchet reconnut cette tête. Ce n'était pas le messager du Seigneur, le banquier de la Providence. C'était Cahussac, le bohème qui travaille quelquefois et qui ferait de si charmants articles s'il prenait la peine de garder la monnaie de sa conversation. Cahussac cause, il n'écrit pas. C'est un artiste en mots, il pétille comme un feu d'artifice, et quand l'esprit lui manque, il se sauve par la méchanceté. C'est du fiel champanisé. Greluchet ne connaissait que trop ce rivarol de brasserie. Son flanc portait encore une plaie ouverte. Cahussac avait lancé plus d'un mot terrible à son adresse. Mais Greluchet, sans rancune, il s'ennuyait tout seul, il appela son bourreau. Cahussac hésita, mais il avait soif aussi, et il entra. « Hein !» cria Greluchet, « ça c'est infect !» trois bourgeois qui jouaient au domino le verre à la tête. Et Greluchet fut content, il faisait sensation. Et que pouvez-vous trouver d'infect, vous ? Demanda Cahusac avec la dernière insolence. De la pièce, parbleu ! Mais étiez-vous ? Oh, j'en sors. L'œil impitoyable de Cahusac se fixa sur son interlocuteur, qui se sentit si décontenancé qu'il fit servir une canette. « Bien, racontez-moi donc la pièce !» reprit Cahusac. « Il n'y a pas de pièce !»« Et les mots ?»« Mais il n'y a pas de mots !»« Mais enfin, de quoi est-il question ?»« Oh, de rien, toujours la même rengaine !» A-t-on sifflé, a-t-on applaudi ? Bon, dit Cahusac, je suis fixé. Et sur quoi ? Demanda Greluchet surpris. Ben, sur vous, parbleu ! Le critique eut presque envie de se fâcher, mais la barbe noire de Cahusac l'intimidait positivement. Le mot, cependant, jeta du froid dans la conversation, et Cahusac se levait déjà pour prendre son chapeau, quand la sortie du théâtre fit affluer dans le café un dernier banc de consommateurs. Parmi eux, l'œil de lynx de Greluchet distingua, non, devina, l'ami Rolin Caldas. « La bière est payée, pensa-t-il, merci mon Dieu !» Et se dressant sur ses maigres jambes, il est là le sauveteur. Du même coup, il fit apporter à Maos. Le trop confiant Romain vint s'asseoir à la table des deux bohèmes. « Quel succès » dit-il. « Au dénuement nous a servi l'auteur. » Greluchet n'était pas à la conversation, il admirait les beaux habits de Caldas. « Mais ah, ça te voilà vêtu comme feu Gordin !» dit-il avec envie. « Y a donc de l'or au bilboquet ?»« Non, pas trop, » dit Romain, « mais j'ai la confiance d'un tailleur. » « Un tailleur a tombé !» interrompit Cahusac. « Oh, je demande son adresse !»« Entendons-nous, » reprit Caldas. « J'ai sa confiance parce que j'ai une place. »«
Une place ?»
firent en cœur les deux bohèmes. « Oui, mes amis, j'entre au ministère de l'équilibre. »«
Paie-t-on la copie ?» demanda le critique.
« 100 francs par mois, » répondit Romain, « pour commencer. »
« Alors, mordieu !» fit le critique,
saisissant la balle au bon.
« C'est toi qui régleras la consommation. »«
100 francs !» reprit Cahusac.
« Mais c'est la Californie !»«
Oh, je demande une pioche !»« Voyons, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner tout cet argent-là »«
Bon, pas grand-chose en vérité. On arrive au bureau sur les 10 heures et à 5 heures on est libre. »
« Ça fait 7 heures, observa Cahusac, c'est long. »«
Y va-t-on tous les jours ?» demanda Greluchet.
« Dame, oui, les dimanches exceptés. »«
Ben, ça fait 26 jours par mois, » remarqua le critique.
« C'est beaucoup. »«
Je vous trouve superbe, » reprit Caldas. « Est-ce que vous avez jamais gagné 100 francs à travailler dans vos journaux ?»
« Oh, d'abord, nous ne travaillons pas !» répliqua Cahusac.
« Et nous sommes libres !» ajouta Greluchet.
« Mais vous n'allez pas toujours où vous voulez !» dit l'autre.
« Bon, pas toujours, mais qu'importe !»«
Ah, il importe si bien !» s'écria Cahusac. « Que de vos 100 francs, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais même pas ce prix d'un tailleur !»
La fable du loup et du chien ne fit point revenir Caldas sur sa détermination. Il allait porter un collier, c'est vrai, mais le blesserait-il plus que le collier de misère dont il gardait encore les cicatrices? Plein de confiance en l'avenir, il écrivit à son père pour lui annoncer son changement d'existence. Cette lettre, qui devait combler de joie la moitié de la population de Céret, Pyrénées-Orientales, faisait honneur au bon sentiment de Romain, le post-scriptum surtout, où il demandait quelque argent.
Un fils respectueux n'écrit jamais à ses parents sans leur demander de l'argent.
Caldas en avait un grand besoin d'argent. Mais Sir Hugo Stern par oubli sans doute, avait négligé de payer le loyer et la pension de son protégé. Une fausse honte avait empêché Romain de lui rappeler ce détail important. Bachibouzouk littéraire, Caldas dînait le plus souvent de la razzia de l'imprévu. Il campait au bivouac de l'amitié ou de l'amour, du crédit quelquefois. Incorporé dans les bataillons réguliers de l'administration, il lui fallait désormais un ordinaire et un casernement assuré. Voilà pourquoi il avait fait traite sur l'amour paternel. La civilisation qui s'intéresse aux nègres n'a pas encore prohibé la traite des pères. En attendant la réponse de Serret, Caldas rêvait au moyen d'enterrer sa liberté au bruit de cette musique qu'aime Marco. Au placé 20 fois remué de son imagination, il réclamait un peu d'or, oh, pas beaucoup, le prix d'un souper. Ma foi, il se paya d'audace. Il alla demander de l'ouvrage au directeur d'un grand journal. Ce directeur, qui fait profession d'aimer la jeunesse, accueillit avec empressement l'offre de collaboration de Caldas. Sacrifiant pour lui 5 minutes du temps qu'il consacre à l'éducation des peuples, cet homme politique ne craignit point de lui révéler son dernier mot sur l'évêque de Rome et finit en lui commandant un article sur une nouvelle pâte à faire couper les rasoirs. En 24 heures, Romain fit un poème. Le directeur du journal, après avoir lu attentivement l'article, crut pouvoir lui prédire un bel avenir littéraire et, séance tenante, lui fit compter 40 francs. J'aime la ligne de ce journal, pensa Caldas. Muni de ce viatique, il s'élança dans un fiacre. À Grenelle au théâtre, dit-il au cocher. Il y avait déjà plus de 6 semaines que le cœur de Caldas avait été incendié par la chevelure de Mademoiselle Célestine. C'était à la descente de l'omnibus des artistes qu'il l'avait aperçu pour la première fois. Le connaissez-vous, monsieur, cet omnibus? Il a fait la fortune du directeur de génie qui a su appliquer ce véhicule à l'art dramatique. Ce grand homme a résolu pour le comédien le problème de l'ubiquité. Avec une seule troupe, M. Mont-Saint-Jean dessert 8 salles de la banlieue et grâce aux 3 rapides de ses chevaux, le même bon fils peut, le même soir, retrouver sur 4 théâtres ou 4 points cardinaux la même croix de sa mère. Et les esprits chagrins viendront nous dire que l'art est dans le marasme. Non, monsieur, la carrosserie a fait de grands progrès. Scarro ne donnait qu'une charrette à sa troupe ambulante. Mont-Saint-Jean met à la disposition de ses artistes une voiture à ressort. C'est égal, l'auteur du roman comique reconnaîtrait les siens. Il saluerait plus d'un visage aux vitres de l'omnibus. Du reste, Mont-Saint-Jean est plus fort que lui. Son omnibus a 18 places. Il y fait tenir 30 comédiens. L'étoile de Caldas brillait ce soir-là du plus vif éclat au firmament. Il arriva au théâtre juste comme Mademoiselle Célestine, qui venait d'être poignardée par le duc de Buckingham, chaussait ses caoutchoucs pour regagner la loge paternelle. Cet ingénu avait été cruel pour Romain. C'est en vain qu'il avait composé pour elle des sonnets de la plus belle eau, et c'est en vain qu'il avait opposé dans le bilboquet à Mademoiselle Fix de la Comédie-Française. Elle avait résisté. Elle ne résista pas à l'offre d'un souper chez Magny. Mais en passant devant le grand Condé, elle s'aperçut que sa robe était déchirée. « Ah, oh, si vous m'aimiez réellement !» soupira-t-elle en lui serrant la main. Caldas n'hésita point, et pourtant il n'avait pas dîné. Mademoiselle Célestine eut une robe qui fit longtemps le désespoir de sa bonne amie, la forte jeune première amoureuse. Mais le souper des fiançailles se fit chez Romain. La rôtisseuse de la rue Dauphine fournit pour 3 francs un frugal menu qui fut arrosé d'un petit bleu largement baptisé. Il monta pourtant à la tête de Romain, ce cru d'Argenteuil, si bien qu'il commit l'imprudence d'avouer à Célestine sa récente nomination au ministère de l'Équilibre national. Des rêves d'ambition se mêlaient à ses rêves d'amour. Il ne cacha pas à son amante que le plus bel avenir administratif lui était réservé. Il se voyait déjà chef de division et lui faisait présent d'une voiture attelée de 2 chevaux gris pommelés. « Je t'aimerai toujours, lui dit l'ingénu, et je viendrai chez toi tous les 31 du mois. » Elle avait l'habitude d'aller en voiture, la pensionnaire de Mont-Saint-Jean. Caldas fut héroïque, il lui restait 30 centimes, il offrit l'omnibus. Et pourtant, le jour qui se levait était son premier jour de servitude. Pour la première fois, il se dit « Allô, il faut aller à mon bureau. » Il fallait aller au bureau, en effet, sans avoir déjeuné, sans un sou, sans savoir s'il dînerait le soir. Il fut sur le point, le misérable, de regretter ses 40 francs. Qu'en restait-il à 7 heures? Une vague senteur ambrée dans sa chambre de garçon, une épingle noire sur sa cheminée. Un espoir survivait chez lui, et c'est avec un battement de cœur qu'en passant devant la loge de sa portière, il lui jeta ces mots. « Avez-vous une lettre pour moi ?» La portière haussa les épaules avec mépris. « C'est fini, se dit-il. Je ne dois plus compter sur mon père. » Et, serrant d'un cran la boucle de son pantalon, il courut au ministère. M. Ganivet, son chef de bureau, l'attendait. Même il avait gardé son habit noir pour cette solennité. D'ordinaire, pour abattre de la besogne, il se met aux manches de chemise. Caldas n'avait jamais vu un homme aussi poli que M. Ganivet. Poli est trop peu dire. Son geste moelleux, sa voix de miel, l'onction de son sourire, en font l'incarnation vivante de cette formule stéréotypée « J'ai l'honneur d'être monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. » Mais cette urbanité paternelle, perpétuelle, n'est aussi qu'une formule chez M. Ganivet. Très orgueilleux au fond et très fier de sa position, s'il condescend à tant d'amabilité pour les inférieurs, c'est qu'il a fait son profit du mot de Gavarni « Les petits mordent. C'est le credo de sa politique. Cet ambitieux de bureau cherche son levier dans la popularité. Si le ministre était nommé au suffrage universel des employés, il aurait le portefeuille. Cet homme déconcerta Caldas par ses prévenances. Il lui roula un fauteuil près de la cheminée et le pria de se chauffer les pieds sans façon. Ensuite, il lui tint un petit discours qui peut se résumer ainsi. « Je vous connais, monsieur, je sais que les modestes fonctions qui vous sont assignées ici sont bien au-dessous de vous. Je rougis presque d'avoir à vous tracer une besogne si mesquine. Des employés comme vous, monsieur, rendent bien difficile la position d'un chef. C'est vous qui devriez être à ma place. » « Bouhou !» se dit Caldas. « Tu me fais poser, mon bonhomme. » Non, M. Ganivet ne faisait pas poser Caldas. Il lui récitait son petit programme, voilà tout. Le reste de l'entretien fut digne du commencement. Le chef de bureau, du ton de l'intérêt le plus profond, s'informa de tout ce qui touchait Romain, de son passé, du présent et de son avenir. Il lui demanda des nouvelles de sa famille et combien son père avait eu d'enfants. Il termina en le félicitant d'avoir été nommé au bureau du sommier, le bureau le mieux composé de tout le ministère. Il lui traça un portrait vraiment flatteur de ses collègues, gens spirituels, instruits, aimables et de la meilleure compagnie, tous appelés au plus bel avenir. Il prit la peine de le conduire lui-même jusqu'à la porte du bureau. Là, il lui donna une chaude poignée de main et finit en lui demandant sa protection.